Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur RTL et sur RTL.fr dans votre magazine de philo, sociaux, psycho et tout ce qui a trait à la réflexion et qui nous rend chaque jour un petit peu moins bêtes, chaque jour un peu moins obtus. Merci pour votre fidélité à votre émission quotidienne. En quoi les smartphones nous ont-ils changé? C'était notre émission d'hier, une émission déjà disponible en replay sur Radio Player France. On se projette? Allez, on se projette un peu. Si je vous disais que d'ici quelques années, nous ne nous nourririons plus que de végétaux. Parviendriez-vous à le concevoir? Ne pas manger de viande ni de poisson n'a plus rien de singulier aujourd'hui. En effet, ce régime alimentaire fait de plus en plus d'adeptes, que ce soit, je vous le disais, par choix éthique, écologique, moral ou encore de santé. Alors allons-nous tous devenir végétariens? Un changement de civilisation nous attend-il dans nos assiettes? On en parle avec nos invités qui vont nous rejoindre dans un instant. Bah tiens, Laurent Beg est déjà en ligne avec nous. Laurent Beg, bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu, merci d'être avec nous. Laurent, vous êtes professeur de psychologie sociale à l'université Grenoble-Alpes. Vous dirigez une unité de recherche du CNRS à Grenoble et vous êtes d'ailleurs initiateur du lundi vert. C'est le lundi sans viande à la cantine. Est-ce que vous pensez effectivement qu'on risque de tous devenir, enfin qu'on risque, c'est une façon de parler évidemment, mais que en tout cas la tendance est à ne plus manger de viande dans les années qui viennent?
Alors la tendance, elle est à en manger de moins en moins, effectivement. Des prophéties avaient déjà été formulées par de nombreux anthropologues il y a déjà 15-20 ans, et on voit que des courbes s'affirment dans le sens du végétarisme.
Voilà, et pour être tout à fait honnête avec vous, c'est vrai qu'on le ressent dans les messages que l'on reçoit sur nos réseaux sociaux. On accueille tout de suite Chicandier sur cette antenne. Bonjour Chicandier.
Bonjour Flavie.
Moi j'ai envie de vous appeler par votre prénom, mais je ne sais pas comment je dois le prononcer. J'aime bien Jason, mais c'est peut-être Jason.
Ah, vous, comme vous voulez. Bon, les deux disent.
Moi j'aime Jason. Jason Chicandier, vous avez 42 ans, vous vivez à Montpellier. Quand on va sur votre site, on découvre que vous êtes, et c'est ainsi que vous vous décrivez, humoriste français, franchouillard, amateur de pâté de tête, taux de cholestérol et d'alcoolémie proportionnelle. Alors je vais vous demander effectivement votre avis sur la question du jour.
Alors, moi, je suis prêt à en discuter. Et ce que je ne supporte pas dans ces débats, c'est souvent l'hystérie d'un côté ou de l'autre. Mm-hmm. Alors moi, effectivement, je suis consommateur de viande, mais je prends de la viande chez mon boucher. C'est une consommation qui est raisonnée, mais je prends de la bonne viande. Je vais pas dans les grandes surfaces, etc. Mais c'est un vaste débat, parce qu'après, c'est pour ceux qui veulent manger de la viande, qui n'ont pas les moyens d'en manger, comment ça se passe, etc. Et je suis aussi prêt à parler de la souffrance animale, parce que c'est pas parce qu'on mange de la viande qu'on est sourd à toute souffrance et à toute évolution. Voilà. Bon. Mais en tout cas, effectivement, je suis un grand amateur de viande et j'en consomme pas autant que je le montre sur mes vidéos, parce que déjà, j'ai pas les moyens, et puis je sais que c'est pas très bon pour la santé de manger tous les jours de la viande, mais j'en consomme assez régulièrement.
Oui, parce qu'en fait, vous vous décrivez quand même comme un viandard. Viandard, ça veut dire quoi? C'est quoi un viandard? Moi, j'ai l'impression, quand je vois un viandard, et puis quand je vous vois, Jason, j'ai l'impression d'avoir en face de moi un mec qui a envie de manger et puis qui va pas y aller avec le dos de la fourchette, si je puis dire.
Vous savez, la côte de bœuf, c'est la Porsche de l'an 2020. Hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens. Donc, entre mecs, comme on est un petit peu, fébrile vis-à-vis de nos Ramirez. Moi, c'est ma femme que j'appelle Mme Ramirez.
D'accord.
Et ben, du coup, c'est pas moi qui porte la culotte. Alors, la seule signe de masculinité qu'on a, c'est on s'apporte des côtes de bœuf et on les met sur les grilles, quoi.
D'accord. Voilà. Parce que vous, c'est particulièrement viril de manger de la côte de bœuf, quoi.
Ah, ben, c'est, on a l'impression, c'est notre côté rahan, quoi. C'est-à-dire, on met une côte de bœuf sur un grill et on a l'impression qu'on est refait, quoi.
Et si je vous disais que demain, vous ne pourrez plus manger de viande, comment est-ce que vous pourriez réagir?
J'en serais fort peiné, mais moi, je raisonne légal, moral. Alors, moi, je ne suis pas pour la morale, parce que chacun a sa propre morale, je suis pour le légal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça sera plus légal, je ne mangerai plus de viande, et puis c'est tout. Je pense qu'effectivement, je suis pour la réduction de la consommation de viande, c'est-à-dire pas d'abattage
dans des conditions
dégueulasses. Et puis, je suis pour évoluer avec ça. Et parfois, j'entends certains, on va dire, débats, et on a l'impression que c'est l'hystérie des deux côtés. On a une personne qui va parler de génocide animalier, etc., ce qui veut dire qu'on ne peut plus entendre, parce qu'on sait ce que le mot génocide représente. Mm-hmm. Et de l'autre côté, on peut avoir quelqu'un qui dit « moi j'en mange tous les jours », etc., ce qui est inaudible aussi. Donc je suis pour un débat raisonné, faire avancer le débat. j'avoue que je serais très malheureux si un jour on me disait que je ne pouvais plus consommer de viande.
D'accord, donc vous êtes pour un débat raisonné, pour une consommation, je l'entends raisonnée, mais quand même une consommation de viande, parce que pour vous, ça fait partie des plaisirs donc, de la vie, et pour vous, c'est synonyme de partage. Je vous présente Anne sur cette antenne qui nous rejoint. Bonjour Anne.
Oui, bonjour.
Soyez la bienvenue, Anne. Merci d'être avec nous. Vous vivez à Montpellier, vous avez 25 ans et vous êtes végane depuis maintenant 2 ans. Vous êtes passée par la case végétarienne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces différentes étapes? Qu'est-ce qu'un végane, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore? On entend beaucoup parler, hein, d'ailleurs, hein, des véganes. Mais est-ce que vous voulez bien nous faire un petit état des lieux, s'il vous plaît, de votre alimentation, de votre régime alimentaire?
Oui, bien sûr. Alors, un végétarien, du coup, va exclure les chairs animales, la viande et le poisson. Le végétalien, lui, il exclut toute alimentation d'origine animale, donc également les œufs et les produits laitiers. Et le végan, lui, il va aussi exclure dans tout ce qui est vestimentaire, le cuir, la laine, ou aussi dans le divertissement, dans tout ce qui est cirque, zoo, ce genre de choses. Et je me permets d'ajouter que je suis antispéciste en plus de végan. Et le spécisme, c'est aussi pas assez connu. Et en fait, le spécisme est aux espèces animales ce que le racisme est aux races, c'est-à-dire que c'est de se permettre de déterminer qu'une espèce animale, on ne peut lui octroyer que certaines choses en se basant sur uniquement le critère de « il appartient à telle espèce ». C'est-à-dire parce qu'il a eu la malchance de naître cochon ou vache, ça va être un aliment alimentaire. Si c'est un chien ou un chat, ça va être un animal domestique, etc.
Alors, on va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien, tous ensemble sur cette antenne. D'un côté, Jason le viandard, de l'autre côté, Anne la végane. Alors évidemment, je ne suis pas en train de vous parler d'un combat, parce qu'on l'aura compris, on va essayer de parler de ce sujet-là qui déchaîne les passions souvent, Laurent Bègue. Hein. Mais on va essayer aujourd'hui d'en parler, effectivement, avec un peu de recul, de hauteur, de respect, les uns, les autres, sur cette antenne, et jusqu'à 15h30. À tout de suite.
Sa vie flamand sur RTL. Vie flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Allons-nous tous devenir végétariens? Un changement de civilisation nous attend-il dans nos assiettes? En tout cas, si l'on vous propose cette émission aujourd'hui et cette discussion la plus posée possible, c'est parce qu'il y a une vraie tendance aujourd'hui à une réduction de la consommation de viande. Laurent Bègue est notre invité. Il est professeur de psychologie sociale à l'université Grenoble-Alpes. Jason Chicandier se présente comme un viandard. Anne, elle, est végane et on accueille dans ce studio, puisqu'il vient d'arriver, Frédéric Dantin. Et bonjour.
Bonjour Flavie.
Soyez le bienvenu, merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain, chroniqueur, journaliste spécialiste des questions environnementales. On reprend notre conversation et puis je vous demanderai ensuite de pouvoir réagir. Anne, vous nous avez expliqué, vous, votre position sur la question que l'on aborde ce jour. C'est-à-dire que vous êtes végane depuis 2 ans, vous étiez végétarienne. Aujourd'hui, il n'y a plus rien dans votre environnement, que ce soit au niveau de vos vêtements ou dans votre assiette, plus rien d'origine animale. Vous êtes également... donc antispéciste, vous êtes gérante d'AV Montpellier, c'est marrant, vous êtes tous les deux à Montpellier d'ailleurs, avec Jason. Anonymous for the Voiceless, ça veut dire quoi? Enfin, ça veut dire quoi? De quoi s'agit-il pour ceux qui nous écoutent?
Alors en fait, Anonymous for the Voiceless, à l'origine, c'est une association australienne. Et ça s'est déployé partout dans le monde, il y a 800 antennes, dont 20 en France. Et du coup, je gère celle de Montpellier. On a quasiment 200 militants avec lesquels on milite. On fait des actions de rue à peu près 2 fois par mois pour sensibiliser à la cause animale.
Alors comment se déroulent vos actions? Parce qu'on en a tellement entendu parler des actions véganes, pardonnez-moi, mais on a entendu parler d'opérations très musclées, parfois effectivement avec de la dégradation de certaines boucheries. Et puis parfois des opérations de sensibilisation. Vous vous situez où, vous?
Alors bien sûr, ça a été très médiatisé, mais c'est extrêmement minoritaire et d'ailleurs il n'y en a plus du tout. Les actions qui sont donc illégales, nous tout ce qu'on fait est déclaré en préfecture. Ça se passe dans le centre, en fait on diffuse sur des écrans des images filmées dans des abattoirs, dans des élevages également, que ce soit de poules pour l'industrie du lait, des œufs et de la viande.
Ouais.
Et les personnes donc, qui portent un intérêt à ça, qui s'arrêtent devant les images, on va aller les sensibiliser, leur expliquer ce qu'ils voient sur les images et leur dire qu'on peut faire autrement.
Est-ce que quand vous écoutez Jason Chicandier nous expliquer son plaisir à manger une bonne côte de bœuf avec ses potes, sa femme qui l'appelle Ramirez, je crois, Jason, comme si effectivement c'était l'apanage de la masculinité que de manger une côte de bœuf, mais enfin bon, ça c'est un autre sujet. Est-ce que Jason vous choque qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, Anne?
Alors, ça ne me choque pas forcément parce qu'on a sensibilisé des centaines de personnes et bien sûr, en fait, on est tous conditionnés par la société à penser de cette façon que moi, j'ai grandi tout à fait comme vous, c'est-à-dire que j'ai mangé de la viande et j'aimais ça. On n'a certainement pas arrêté parce qu'on n'aimait pas, c'est parce que quand on a vu les images, c'était insoutenable et quand on sait le rôle qu'on joue là-dedans, on ne peut plus y participer. D'accord. Et donc, du coup, effectivement, la question du plaisir gustatif revient. Mais prendre du plaisir au détriment de la souffrance d'une victime, c'est la même définition. Ce que je dis en général aux personnes, c'est la même définition que pour le viol. Ce n'est pas du tout moralement justifiable. Prendre du plaisir au détriment de la souffrance d'une victime.
Ouais, bon, on ne rentrera pas dans ce débat, vous et moi, mais bon. Jason, est-ce que vous pourriez être convaincu par des arguments d'Anne si vous croisez Anne dans les rues de Montpellier?
Alors, le seul problème...
Parce que vous risquez de vous croiser quand même, hein, vous êtes dans la même ville.
Non, on peut se croiser, mais il n'y a aucun problème, on ira se faire une bonne côte de bœuf.
Voilà, je la voyais venir celle-là. Hein,
mais non, non, le problème c'est l'emploi de certains mots qui du coup rend le discours inaudible. C'est-à-dire que quand on compare... de manger, un bœuf ou une vache qui a été, j'allais dire, malheureusement tuée dans des conditions qui sont aujourd'hui légales et qui sont des bonnes questions. Je ne parle pas évidemment des abattoirs dans des conditions qui sont horribles. Je parle de gens qui sont des passionnés de leur travail, des artisans et qui justement réfléchissent à la souffrance animale. Et quand on compare ça à du viol, ou alors quand on compare ça à des génocides, quand on parle de d'antispécisme, c'est-à-dire qu'on peut mettre au même niveau, une souris, un éléphant et un homme, au bout d'un moment, le discours devient inaudible parce que je pense, en tout cas moi, c'est une croyance, je crois que l'homme avec un grand H, c'est-à-dire on a l'homme et la femme évidemment, sont sacrés. Et je mets l'homme et la femme avant toute chose. Après, il y a effectivement dans l'être humain une part d'animalité qui fait qu'il y a un côté prédateur, mais comme on est quand même nous sommes des êtres intelligents et dotés de raison, on réfléchit effectivement à faire ça de façon, j'allais dire, mesurée, peut-être même avec moins de consommation, etc., pour respecter effectivement la nature. Mais avec des discours qui nous parlent de viol, de génocide et qui comparent l'incomparable...
C'est là que ça devient inaudible pour vous.
Ça devient inaudible pour moi, en tout cas. Oui.
D'accord. Effectivement, les termes qui sont employés ne sont pas anodins, hein, puisque forcément, on y est sensible ou pas. Vous, Jason, vous parlez donc de sacré. L'homme est sacré. Vous, Anne, vous risquez à des comparaisons audibles. Voilà. On va se retrouver dans un instant parce que je suis sûre que Laurent Beg et Frédéric Doré, nos invités, maintenant qu'ils vous ont écouté, ont beaucoup à dire. On commencera évidemment avec vous, Frédéric. On vous remercie pour votre patience. À tout de suite.
David Flamand sur RTL. Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Frédéric Dan et Laurent Beg, vous êtes nos invités jusqu'à 15h30. On vient d'échanger avec Anne sur cette antenne et Jason Chicandier. Frédéric Dan, qu'avez-vous retenu des propos de nos invités? Vous avez principalement, vous, entendu Anne nous parler de l'antispécisme et comparer aussi la maltraitance animale à des génocides, voire à des viols.
Ben c'est dommage parce que tous les arguments se tenaient et il n'y a rien à faire. Les porte-parole du véganisme se tirent une balle dans le pied en élargissant la cause animale, en faisant une comparaison avec des combats que l'humanité a menés pour s'améliorer. Mais en même temps, c'est très cohérent parce que Anne se dit antispéciste et quand on est antispéciste, que l'on soit un animal comme un autre ou l'homme, c'est exactement la même chose. Donc effectivement, inséminer une vache, c'est comme c'est comme violer une femme. Donc effectivement, gazer des cochons pour les tuer, c'est comme je l'ai entendu dire en Alsace devant des anciens combattants par une militante végane, c'est un génocide parce qu'on assimile les cochons aux juifs. Hein. On peut tout dire. pour essayer de, d'asseoir sa théorie. Derrière tout ça, c'est juste un vieux moralisme qui est vieux comme la Bible. Ça fait 2000 ans que la Bible parle du véganisme. Ça fait 200 ans que les protestants, que les évangélistes américains, puis anglais, à la fin du 19e à Londres, parlent du véganisme. Ça fait 200 ans qu'on nous sert ce discours moralisateur sur « ce n'est pas bien de répandre le sang, ce n'est pas bien finalement d'exercer le péché de chair ». Je vais vite donc volontiers caricatural. Et je trouve que c'est pas bien, moralement, entendre. Et puis c'est pas bien parce que ça dessert leur cause. On a le droit d'être vegan, on a le droit de refuser de manger de la viande, on a absolument le droit d'être végétarien, mais qu'on laisse en paix les autres manger ce qu'ils veulent, même si, à l'évidence, il y a des pratiques qui sont à condamner, mais c'est surtout pas, c'est sûrement pas, en associant ces pratiques à des pratiques humaines, qu'on va y arriver. Parce que là, on va faire... La dernière chose à faire quand on fait de la vulgarisation, on va braquer les gens par une culpabilisation. C'est un discours très judéo-chrétien. C'est mal, tu as péché, tu es sale, tu es un vilain au sens biblique du terme. Donc il faut te débarrasser, il faut devenir pur. Et pour devenir pur, il faut cesser de manger de la viande. Non, on n'a pas besoin de ça pour être vegan et revendiquer ce véganisme.
Je précise pour ceux qui nous écoutent et pour Anne que vous êtes l'auteur d'un ouvrage aux éditions Buchet-Chastel qui s'intitule « La cause végane, un nouvel intégrisme ».
Point d'interrogation.
Point d'interrogation, j'allais évidemment le préciser puisque la nuance est importante. Anne, vous comprenez que votre discours à un moment donné puisse, pardon, mais avoir vraiment certaines limites que vient d'expliciter Frédéric Danhé?
Oui, bien sûr. J'utilise très peu de termes comme ça. Là, c'est vraiment une des exceptions et je me suis permis de la faire parce que pour moi, le fait qu'on parle d'une autre espèce animale, ça change en rien l'acte qu'on fait envers cet animal. Donc, il faut le dire et c'est pas parce que ça fâche et ça fait mal à entendre que c'est pas vrai en fait.
Moi je peux rejoindre Frédéric Danhé sur cette idée qu'à un moment donné effectivement ça on vous écoute, on adhère à votre point de vue et on a l'impression tout à coup que vous basculez, vous marchez sur un fil et vous basculez dans quelque chose qui vient heurter parfois aussi froisser en tout cas certaines de nos convictions. C'est-à-dire que nous on est prêt à faire des efforts mais on va pas non plus culpabiliser et le discours de propagande parfois se fait sur le lit effectivement d'une peur quoi.
Non, bien sûr, je voulais pas culpabiliser, c'est surtout pas mon objectif. Y a justement un équilibre à tenir pour arriver à responsabiliser les gens, pour se rendre compte que quand on achète des produits d'origine animale, de la viande, du lait, du beurre, des œufs, en fait on finance les industries, on finance les horreurs qu'on n'arrive pas à avoir nous-mêmes. Mais oui, bien sûr, je ne veux pas culpabiliser les personnes directement, ce ne serait pas productif.
Oui, effectivement, mais c'est vrai que ce sont des propos qui peuvent aller à contre-courant de votre cause, peut-être, en tout cas selon Frédéric Danhé. Ensuite, on donne la parole à Laurent Bègue et à Jason.
Oui, mais la question, elle est simple, en fait, c'est comment on vit, comment on assume le fait que l'on tue des animaux pour nous nourrir. Ça fait, encore une fois, toutes les religions du monde ont accompagné cette interrogation. Toutes les religions du monde ont essayé de nous faire vivre avec ça. C'est un athée qui vous parle, mais j'ai travaillé un peu les textes, et en particulier dans la Bible, voilà, il faut vivre avec ça. Moi, je le vis, je l'assume. Donc il y a des rituels qu'on a chez soi, il y a des rituels religieux, il y a des rituels culturels et cultuels. Voilà, il faut vivre avec ça. Prétendre que c'est uniquement culturel le fait de manger de la viande, non, on en a quand même un peu besoin. Même nos ancêtres cro-magnons mangeaient un peu 15%. Voilà, il faut justement, faut simplement assumer le fait que l'on a tué des animaux pour nous. C'est tout, chacun
on
fait comme
il veut. On en parle jusqu'à 15h30 de toute façon. Laurent Bègue.
Oui, simplement quelques éléments, parce que j'ai l'impression que pour le moment, on est dans le lexique, dans le véganisme et l'anti-véganisme, et je pense que la question n'est pas...
Non, on va
la
avancer, vous inquiétez pas.
Plutôt, effectivement, les évolutions sociétales autour de la sensibilisation environnementale, hein, puisqu'on a quand même des entités comme le GIEC, comme l'ANSES, comme les défenseurs des droits et beaucoup d'autres qui nous disent qu'il faut diminuer la consommation de viande. La question, c'est comment
Ce sera l'objet de notre deuxième demi-heure. Jason. Une réaction avant que je parle de vous, de votre cas.
Non, moi je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Frédéric. Ce sont des totalement d'accord avec les gens qui sont véganes. En fait, c'est un petit peu des religions en fait, parce que si vous voulez, demain il y a eu des études qui ont été faites pour dire que il peut y avoir aussi d'autres espèces qui sont des plantes, etc., qui sont dotées d'une certaine forme de conscience. Et après, le véganisme, il y aura peut-être aussi le fait qu'il ne faut pas manger de salade, pas de carottes, pas tout ça, parce que ça peut aussi être un système de destruction d'un être vivant, quelque part.
Ou d'un écosystème.
Ou d'un écosystème, etc. Je ne suis pas religieux, et je ne suis pas dans les croyances. Voilà. Je pense qu'il faut être raisonné et raisonnable, et qu'effectivement, il y a une part d'animalité. Comme disait Milan Kundera, le kitsch, c'est la négation de la merde. Et je crois que parfois, il y a ce côté-là où on nie l'humanité telle qu'elle est. Ouais. Et donc, moi, je nie pas l'humanité et je la respecte au plus haut point. Et c'est pour ça que parfois, dans ces discours, on a l'impression que de progressisme, on passe à régressisme. Parce que quand on écoute des gens comme Eric Caron dire qu'il ne faut pas tuer les moustiques parce qu'en fait, c'est la femelle qui apporte la protéine pour ses enfants, alors que c'est une des plus grandes causes de mortalité dans le monde, que sont les moustiques, on dit que c'est plus entendable. Voilà.
Alors, bon, en tout cas, en attendant le cas du moustique, je tiens à préciser, en attendant le steak aussi, et dis donc, on m'a dit que vous étiez drôle, mais vous êtes capable d'être vachement sérieux aussi, Jason Chicandier. En attendant le steak, vous allez tenir le bar du prochain spectacle de Laurent Gérard et d'Eddie Mitchell. On en a entendu la promotion tout à l'heure, intitulée À crédit et en stéréo. C'est une soirée aux airs de vieilles canailles qui sera diffusée en live streaming depuis le théâtre du Gymnase de Paris, un spectacle RTL. Voilà, donc c'est super, ça. On est content. Et puis on va vous retrouver aussi dans le prochain Astérix de Guillaume Canet. Ce sera mi-juin dans le rôle de d'Ordre Alphabetix, le poissonnier.
Exactement. Ah, bah tiens, une fois n'est pas coutume,
le poisson.
Voilà.
On va faire dans le pesco. Pas un viandard. Ah, ah. Merci beaucoup, Jason Chicandier. Ça vous va très bien, Jason. Merci beaucoup, Anne. Merci d'avoir bien voulu témoigner sur cette antenne. Je vous souhaite une bonne fin de journée à vous deux. Je reste avec Laurent Beck, Frédéric Danré et Olivier Bois qui vient d'arriver dans ce studio pour les infos.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL jusqu'à 15h30.
Allez, des messages qui nous arrivent les uns après les autres. Allons-nous tous devenir un jour végétariens ? Tous nous écrit Geneviève, ne rêvez pas, je n'arrêterai jamais de manger de la viande. Ne venez pas me dire que je ne suis pas responsable. Je me sens responsable vis-à-vis des éleveurs qui font un métier pénible pour nous fournir une viande de qualité. Je ne me fournis que chez les petits producteurs. Noan nous écrit, je suis devenu végétarien pour des raisons éthiques. J'étais contre la violence faite aux animaux, mais je continue à en manger pour moi. Un contresens énorme. Du coup, j'ai franchi le pas. La meilleure décision de ma vie. Le plus compliqué, c'était la famille et les amis, toujours à justifier nos choix. Et puis Malak nous explique qu'il mange beaucoup moins de viande, maximum 3 fois par semaine et de qualité exceptionnelle, locale et bio. Idem pour le poisson, local, du lac direct chez le pêcheur. Notre consommation de viande et de poisson est sidérante. Merci les lobbies agroalimentaires de nous avoir fait croire que la viande devait être la base de chaque repas. Tout ça, ce sont des conneries. Ce sont les légumes et les légumineuses qui doivent en être la base. Alors, on assiste, Laurent Beg, à une véritable évolution de la société sur cette question. Et on s'en rend compte à travers les messages que l'on reçoit.
Bien sûr, alors on a effectivement une évolution d'abord de la, je dirais, des pratiques végétariennes, puisqu'en 20 ans, il y a une augmentation par 7 de personnes qui se déclarent végétariennes. Aujourd'hui, 12% des lycéens se disent végétariens et à peu près 5% de la population. Donc ça reste limité, mais il y a une tendance sensible. Alors, on a effectivement une contestation croissante des conditions d'élevage. Encore aujourd'hui, je crois, une vidéo circulait justement sur un élevage porcin. Il faut savoir que les élevages porcins, c'est plus de 90% d'animaux qui sont dans des conditions de vie assez contestables. Et puis, je dirais, une sorte de convergence des diagnostics, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, le GIEC, Greta Thunberg et beaucoup d'autres nous disent et nous redisent que nous consommons trop de viande et que ça a un impact massif sur à la fois l'environnement, mais aussi pour certaines pathologies sur notre santé. Donc les raisons sont assez convergentes et il n'est pas surprenant que la population commence à modifier ses pratiques.
Frédéric Danhé, donc on vient d'entendre effectivement Laurent Beck, on a quand même le sentiment que les jeunes sont beaucoup plus sensibles à cette cause.
Oui, oui. Et puis en même temps, ils veulent reconnaître le droit au blasphème. Et puis ils n'aiment pas la liberté de la presse dans les sondages d'opinion. Donc je me méfie de l'idéalisation des jeunes. J'en ai chez moi. Ils sont tous pour la planète, mais pour le reste, bon, bref. Effectivement, on consomme moins de viande depuis.
Mais c'est une cause comme une autre.
Enfin, c'est une cause comme une autre. Ce qui serait bien, c'est que ces ados devenus jeunes parents, jeunes adultes, conservent le même engagement pour la planète, pour l'écologie. Ça, on verra. Mais il y a une baisse de la consommation de viande depuis 15 ans environ, mais qui est très schizophrène. Il y a une baisse de la consommation de la viande par achat en boucherie, c'est-à-dire là où on voit le muscle, où on voit le sang. Mais il y a une augmentation de la viande achetée sous forme d'ingrédients dans les plats tout préparés vendus en supermarché et en restauration hors domicile, c'est-à-dire à la cantine et au restaurant. Comme si on n'assumait absolument pas. On dit que l'on ne veut plus manger de viande parce que ça tue des animaux, mais par contre, si c'est sous une forme informe qui éloigne l'animal de nous-mêmes, eh bien ça, on veut bien la manger.
Donc il y a une forme d'hypocrisie, non, vous voulez dire
pas. Si, pour moi, il y a une forme d'hypocrisie.
Laurent Bègue ?
Non, mais globalement, je veux dire, il y a des tendances qui sont mesurées par exemple, France Alzheimer, qui établit bien des diminutions significatives de la consommation. Alors, vous pouvez évidemment distinguer par type de viande,
bah oui.
Mais il y a une diminution globale.
C'est
le point important.
D'accord, mais effectivement, on retrouve la viande. Ce que vous voulez dire là, pour le coup, Frédéric Danhé, c'est qu'il y a une hypocrisie, c'est-à-dire que le steak en lui-même, la viande telle que...
Le steak chute très fort. Alors que et cette chute est en partie corrigée par une augmentation, ou en tout cas une constance d'une année à l'autre, de la consommation de viande sous forme d'ingrédients. Voilà.
On a le sentiment aussi que parfois la viande est assimilée, Laurent Bègue, à une forme de malbouffe. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui de la viande de qualité au-delà de la souffrance animale. Une exigence d'une viande de qualité.
En tout cas, il y a une dimension sanitaire qui est identifiée. C'est assez récent, finalement, les travaux sur l'impact de la consommation excessive de viande rouge ou de viande transformée sur le cancer colorectal sont assez récents. Donc, les prises de conscience, je dirais, suivent ce mouvement. On a après beaucoup de travaux sur l'impact sur d'autres pathologies cardiovasculaires, des statistiques. Une belle enquête qui avait été menée, justement, sur l'espérance de vie des végétariens. Donc une enquête sur 125 000 personnes qui a été menée par une équipe suisse qui montrait qu'ils avaient une espérance de vie augmentée de 4 ans en contrôlant des facteurs conjoints hein, comme le tabagisme ou l'alcool. Donc c'est vrai que globalement, les gens comprennent qu'il est plutôt bon de consommer moins, voire pas de viande du tout. Et on peut très bien s'en passer. D'ailleurs, le président du programme national nutrition santé, Serge Herzberg, a dit lui-même « on peut très bien vivre sans viande ». Donc je dirais, la question de la santé... C'est une question qui préoccupe les Français.
Oui, mais là, moi, je vous parlais aussi de la question de la qualité de la viande. On va y revenir dans un instant, puisque Jason Chicandier le disait en début d'émission, c'est cher, la bonne viande. Et aujourd'hui, effectivement, s'acheter de la viande, parfois en supermarché, c'est acheter clairement une forme de malbouffe aussi, parce que effectivement, elle est à des prix considérés comme imbattables. On se retrouve tout de suite sur l'antenne d'RTL.
Flavie Flamand sur RTL. Sur RTL jusqu'à 15h30.
Qu'est-ce qui vous fait rire, Frédéric Danhé ?
C'est le Kiki. J'aime bien comment vous avez dit Kiki.
Kiki.
Non, voilà. C'est beau.
Et l'album de Julien Doré qui s'appelle Aimer, qui est vachement bien. Merci d'être avec nous jusqu'à 15h30. Frédéric Danhé est écrivain, chroniqueur, journaliste, spécialiste des questions environnementales. Laurent Bègue, il dirige une unité de recherche du CNRS à Grenoble et il est l'initiateur du lundi vert, le lundi sans viande à la cantine, puisque c'est la question que l'on se pose. Est-ce que demain, dans des temps futurs en tout cas, nous cesserons de manger de la viande ? La tendance est à la baisse, on l'a bien compris, et on le retrouve dans tous les messages que vous nous laissez. Bon, il y a juste Julien qui nous écrit « Ceux qui essaieront de m'enlever mon steak, eh bien je les mange. » Ben voilà, ben écoutez, on vous attend Julien, bon courage. On n'est pas comestibles. Sylvie, on ferait mieux d'éduquer sur le fait qu'on n'a pas besoin de manger de la viande tous les jours, c'est d'ailleurs une habitude très récente, là je pense que tout le monde est d'accord, qu'une consommation raisonnée et raisonnable avec des animaux élevés en plein champ, abattus avec le plus d'humanité et de respect possible, serait certainement plus rationnelle. Sylvie, je pense qu'on se rejoint tous sur cette question. Frédéric Danhé, tout le monde ne peut pas manger de la viande. Aujourd'hui, la bonne, vraie viande, c'est très cher.
Ah bah c'est inaccessible à la plupart. Moi, j'ai fait une enquête pour un livre qui vient de sortir chez Actes Sud sur comment en France on mange quand on est pauvre. Bah, quand on est pauvre, on mange très mal, on mange de la malbouffe parce que c'est plus facile à réchauffer au micro-ondes, parce que le micro-ondes coûte moins cher en énergie que le four. Donc c'est du plat préparé, c'est peu de produits frais, mais paradoxalement, ou pas d'ailleurs, les pauvres tiennent absolument à mettre un bout de barbac dans l'assiette de leurs enfants, parce que ne pas le faire serait avouer leur misère. Et ça, c'est très sensible. Chez les musulmans, on a vu dans les quartiers, dites-leur parler leur véganisme ou végétarisme, ils savent bien que c'est trop, ils savent bien que ça leur coûte cher, mais ils y tiennent absolument, parce que sinon, ce serait vraiment avouer leur misère. Mais pour revenir à votre question, effectivement, manger de la bonne viande, bah oui, c'est 20-30 euros le kilo.
Mais c'est pas propre aux religions, c'est culturel.
Oui, c'est culturel. Enfin, oui, on peut étendre ça, effectivement, mais... manger de la bonne viande, c'est inaccessible à la plupart. Raison de plus pour en manger moins. Et moi, là-dessus, avec Laurence, on se rejoint. On mange 2 à 3 fois plus de viande qu'il ne nous en faut vraiment. Et c'était une conquête culturelle hein, pendant les 30 Glorieuses. L'ouvrier a voulu manger et se déplacer comme le patron, c'est-à-dire manger de la viande et acheter une voiture. On peut en manger moins et mieux.
Voilà. Et Laurent Maigre ?
Oui, simplement, pour aller dans le même sens, il y a une symbolique de la viande qui a été longtemps associée à la richesse. Hein, si vous regardez, par exemple, ce que l'égyptologue Edward Carter a découvert tout en Camour en 1922, eh bien, il y avait 48 boîtes en forme d'œuf, pleines, effectivement, de morceaux de viande de toutes sortes. Hein. Donc, aujourd'hui même, l'étymologie, hein, cheptel renvoie à capital, à ressources économiques. Donc, dans l'imaginaire social, viande et richesse sont liées. Paradoxalement, les personnes de revenus modestes consomment aujourd'hui plus de viande que les personnes plus riches. Voilà. De la viande de mauvaise qualité.
Voilà, et on demande aussi à tous de cesser de manger de la viande. Et la viande est super chère. La bonne viande est super chère. Mmh.
Donc, en fait, je ne sais pas qui c'est « on ». C'est-à-dire que les personnes réalisent en fait, qu'il y a des conséquences sur leur environnement. Hein. Je crois que, par exemple, l'acte individuel qui a le plus d'impact sur les émissions de gaz à effet de serre, c'est la consommation de viande. Donc, c'est quand même pas rien.
Alors ça, ce sont les raisons écologiques. Mais est-ce qu'effectivement, quand on a du mal à joindre les deux bouts, on est sensible aux raisons écologiques avant de l'être aux raisons économiques ?
Sensible, oui, mais mettre les choses en œuvre, c'est plus difficile. Oui, l'écologie en pratique, ça reste malheureusement un sport de riche, un sport de CSP et de CSP+. Oui, c'est... Mais quand on n'a pas les moyens, bon, on fait ce qu'on peut.
Donc Laurent Beg, ça coûte cher.
Pour le sport, voilà, je pense que justement, lorsqu'on se lance dans le sport, en général, on y va doucement. C'était un petit peu le sens du lundi vert, c'est-à-dire apprendre à manger sans viande complètement, vraiment, ne pas retirer la viande, mais la remplacer par des légumineuses et les cuisiner un jour par semaine. Et le bilan de cette opération, c'est que 90% des personnes veulent continuer, 70% même ont décidé de diminuer encore plus, et je pense que ça passe par là, c'est-à-dire une approche progressive, pédagogique, pas culpabilisante, mais qui vraiment inscrit dans les routines des vrais comportements de changement.
Paul nous écrit « Je préfère manger moins de viande, mais acheter plus de qualitatif. Lorsque j'ai dégusté les viandes affinées de 6 semaines, cela a été une révélation culinaire pour moi. Je ne suis pas prêt à me passer totalement de viande. Il vaut mieux être vigilant sur la provenance de celle-ci. Local, label rouge, où on peut vérifier qu'elle est élevée dans de bonnes conditions. Je pense que le régime flexitarien est le meilleur pour la planète et pour notre santé. » Tiffany est flexitarienne, justement. Bonjour Tiffany.
Bonjour Clélie.
Bienvenue sur RTL, vous avez 28 ans, vous habitez à Saint-Ouen et vous avez commencé à réduire votre consommation de viande il y a 1 an et demi environ. Est-ce que vous vous sentez mieux ?
Oui, alors moi depuis que j'ai réduit la consommation de viande, je me sens beaucoup mieux. Donc j'ai fait à la base, bon, pour toutes les raisons qu'on a évoquées auparavant, que ce soit pour la santé, pour le bien-être animal ou encore pour la planète. Mais en fait, en diminuant les produits carnés, je me suis rendu compte en fait de la richesse alimentaire qui était à notre disposition et en fait que les protéines étaient aussi présentes beaucoup dans, par exemple, le soja, les graines, les oléagineux, pardon, ou les légumineuses. Donc il y a vraiment plein d'autres façons de manger des protéines aujourd'hui que dans la viande.
D'accord. Quand je vous dis que vous vous sentez mieux, donc je comprends, on va revenir justement aux alternatives pour ceux qui nous écoutent hein, et qui se disent d'accord, mais si demain on mange plus de viande, on mange quoi ? Mais Tiffany, vous vous sentez plus en accord donc avec vos convictions ? Est-ce que vous vous sentez en meilleure santé ? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir plus d'énergie ?
Alors, depuis que j'ai diminué l'apport de viande, déjà j'ai perdu du poids. Donc moi, c'est quelque chose, là, forcément, je me sens mieux dans ma peau. Et en effet, j'ai toute l'énergie nécessaire, j'ai aucune carence et je me porte très bien.
C'est vrai que on se sent mieux, Laurent Beg, quand on mange pas trop de viande. C'est bizarre d'ailleurs. Enfin, c'est bizarre. Ça s'explique, mais.
Le retentissement subjectif est très variable, hein, puisqu'on peut très bien imaginer un effet, je dirais, de bien-être qui est lié au fait qu'on vit en accord avec des valeurs qui sont portées par un comportement.
C'est-à-dire mais pas que j'ai l'impression.
Par exemple, peut-être, mais en fait, je crois que je ne connais pas de recherche sérieuse qui montrerait qu'il y a un effet particulier de la baisse de consommation de viande sur le bonheur ou bien sur le sentiment d'être bien.
Non. Je pensais dans son corps, moi. Je parlais dans son corps.
Alors, encore une fois, là, les expériences sont très variables. Je pense qu'il y a un impact sur la santé en général, qui généralement est bénéfique. Encore faut-il, encore une fois, faire correctement ce changement, c'est-à-dire vérifier que tout est OK au niveau des équilibres alimentaires, puisque nous sommes dans un pays, encore aujourd'hui, où finalement, la plupart des sites de restauration négligent les personnes qui souhaitent retirer la viande. poisson. Donc, avoir un équilibre, voilà, ça pose des questions.
On ne vous entend plus, Laurent Beck. On va rétablir la ligne. On va se retrouver dans un instant sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Laurent Beck, on vous a retrouvé ?
Oui, je suis là.
Alors, on en était où ?
Simplement, les bénéfices pour la santé. Donc, on parlait de l'impact subjectif. Il est vrai que si vous parvenez à mettre en œuvre un comportement alimentaire qui est en lien, en alignement avec vos valeurs, c'est toujours chouette. Voilà. Après, ce qui est certain, c'est que le bien-être physique va certainement être lié. Hein. C'est une dynamique vertueuse de réguler, je dirais, son alimentation. Et globalement, les personnes qui augmentent la consommation de légumineuses, d'oléagineuses, qui diminuent la consommation de viande, sont plus proches des repères nutritionnels, je dirais, qui sont communiqués par les autorités sanitaires. Donc, c'est tout de même un mouvement vers plus de santé.
Vous voulez dire quelque chose, Frédéric Danhé ?
Non, mais là, je suis d'accord avec Laurent, encore une fois. C'est le régime alimentaire, effectivement, le mieux... tel que l'imaginent les nutritionnistes, c'est une grande variété de produits, puis c'est de la viande qui est résumée entre 12 et 20% selon les publications, 12 et 20% du régime alimentaire. Donc c'est en manger 3 fois par semaine, c'est pas plus que ça en fait.
Donc c'est ce qu'on appelle les flexitariens.
Oui, les flexitariens, je le suis moi-même, moi je mange peu de viande, vous savez. Mais après, faut pas oublier, faut pas réduire.
Vous en mangez quoi, 2-3 fois par semaine ?
Ouais, et puis de la viande rouge, 2 ou 3 fois par mois, pas plus.
D'accord.
Parce que je veux de la bonne.
D'accord. Laurent Beg. Laurent Beg, voilà, vous mangez de la bonne, vous, ou pas ? Non, oui.
Le flexitarisme, en fait, c'est intéressant, parce que c'est une vraie question. Vous savez qu'Interbev, l'interprofession de la viande, qui a beaucoup d'argent, 32 millions d'euros, pour justement communiquer d'une image très, très agresse, très sympathique de l'élevage, eh bien, propose le flexitarisme. Ouais. En fait, je pense, lorsqu'on cherche à aller vers moins de viande, il faut se poser des repères précis, c'est-à-dire, chaque fois que j'en consomme, je fais une petite croix sur mon agenda, parce que sinon, on peut très bien se jouer un rôle de flexitarien en restant finalement un peu comme beaucoup de gens, c'est-à-dire en ne changeant pas.
Mais quand on est flexitarien, c'est à partir de quelle consommation ? Pardonnez-moi, mais 2-3 fois par semaine, moi j'ai l'impression par exemple que 2-3 fois par semaine, on est carnivore, on est viandard. Oui, c'est ça.
Ça n'est pas utilisé dans la recherche, c'est pas un terme qui est descriptif, puisqu'il est volontairement flou.
Alors, on va demander à Tiffany. Tiffany, vous mangez de la viande combien de fois par semaine ?
Je mange de la viande environ 2 fois par semaine.
D'accord.
Et de la viande rouge 1 fois par mois. Et je me considère comme étant flexitarienne.
C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'on est flexitarien à partir du moment où on fait régulièrement des repas dits végétariens ? C'est ça, en fait ?
Tout simplement.
C'est quand il n'y a pas de viande à chaque repas ?
Exactement. Moi, je pense que c'est ça.
Et Laurent Beg, c'est paradoxalement plus facile,
la précaution à prendre, simplement, excusez-moi.
Je vous en prie, Laurent, allez-y.
Oui, la précaution, c'est de simplement ne pas chercher à simplement supprimer, mais correctement remplacer. Puisque on peut se penser flexitarien en ne cherchant pas à remplacer.
J'allais y aller.
La difficulté, voilà.
J'allais y aller. Vous vouliez dire rajouter quelque chose, Frédéric, après on va parler des alternatives.
Parce que les enfants mangent de la viande à la cantine tous les jours, donc c'est pas la peine de leur en refaire le soir, donc vous pouvez en faire, moi c'est ce que je fais avec les enfants, une fois tous les 3 jours, parce qu'ils en mangent le midi de toute façon.
Tiffany, quelles sont les alternatives à la viande que vous avez trouvées, justement, dans un repas végétarien, vous faites appel à quoi pour ceux qui nous écoutent et qui se posent la question ?
Oui, alors déjà un petit mot en introduction, c'est que l'alimentation végétale, elle est riche en couleurs, elle est riche en saveurs et en goût. Aujourd'hui, on l'associe beaucoup parfois, enfin, certaines personnes l'associent à 3 morceaux de salade et 2 tomates, mais c'est pas du tout le cas.
Ah non, ça peut être bien meilleur.
On a une grande, grande richesse alimentaire derrière ça. Et donc, moi, ce que je mets beaucoup à l'honneur dans mes assiettes, avec les légumineuses, le soja aussi, donc avec le tofu, par exemple, on peut faire d'excellentes nuggets de tofu pour remplacer les nuggets de poulet. Il y a aussi les graines, donc que ce soit les graines de chanvre ou de courge, mais aussi en forme d'huile pour les assaisonnements de salade, et aussi tous les oléagineux. Et ce qui est génial, c'est que ces aliments, on peut les utiliser aussi bien dans des recettes salées que dans des recettes sucrées, où par exemple les haricots rouges permettront parfaitement de remplacer la farine dans un brownie, et on aura une texture hyper fondante et plein de protéines.
Et c'est une cuisine créative, hein, Tiffany ?
Exactement. Oui, c'est une cuisine créative avec toujours des assiettes colorées et c'est ça qui est génial.
Parce qu'il y a quelque chose aussi, Frédéric Danhé, c'est le plaisir de cuisiner.
Eh ben oui, il faut en
arriver
à ça.
Parce que quand on cuit un steak, en général, on fait une garniture à côté et puis emballer, c'est peser. Mais la cuisine végétarienne est une cuisine hyper créative.
On oublie en France depuis 30 ans que la nourriture, c'est du plaisir. On ne parle que de santé et maintenant d'écologie.
Et Jason Chicandier nous disait que le plaisir, pour lui, c'était une côte de bœuf. Hein. Il est encore dans cette vision.
Alors peut-être que, voilà, il y a peut-être un petit. Voilà, je crois qu'il y a un petit manque en France, justement, la cuisine végétale qui ne se développe pas très bien. Alors, progressivement, on y arrive, hein, puisque maintenant, elle sera même dans les formations des cuisiniers, elle est de plus en plus présente. Mais c'est vrai, vous avez raison, le plaisir n'est pas ce qu'on associe immédiatement avec le végétarisme. C'est plutôt une image un peu d'ascétisme, un petit peu de. Parfois même de punitivité. Et je pense qu'il faut changer cette image parce que, par exemple, acheter tout à l'heure une boîte de peut-être de pois chiches, vous supprimez l'eau, vous rincez bien parce que sinon vous allez avoir des flatulences. Mettez-les sur la poêle.
Voilà, péter joyeusement, quoi. Oui.
Sérieux. Mettez-les sur la poêle avec, effectivement, un peu de sauce de soja, avec des cacahuètes et des champignons. Et vous aurez plaisir tout à fait similaire à ce que vous avez lorsque vous mangez. Ce qu'il faut, c'est retrouver le plaisir, effectivement. Un bon gros plaisir de manger un plat qui nous fait. Voilà.
Ce sera donc la recette de Laurent Beg. Je vous remercie d'avoir passé cette heure avec nous. Laurent Beg, à bientôt sur RTL. Frédéric Danhé. Vous étiez parti sur le plaisir de la cuisine. Vous avez une petite recette avant la fin de.
Je confirme pour faire à manger à mes enfants que, effectivement, ne faire que des légumes, c'est beaucoup plus inventif. Mais il n'en reste pas moins qu'on passe plus de temps. C'est ce que m'a dit un humoriste que je nommerai pas sur cette station. C'est Manu Payet. Il m'a dit on a quand même plus de temps à passer autour d'une côte de bœuf. Autour d'un plat de lentilles. C'est ce que Gilles Fumet, géographe de l'alimentation, appelle l'eucharistie au sens propre, c'est-à-dire le sacrifice d'un bout de viande qui fait passer du bon moment aux gens. C'est du lien social, plus peut-être pour l'instant que les plats végétariens.
Merci beaucoup Frédéric Danhé d'avoir accepté mon invitation. Deux livres, La cause végane, un nouvel intégrisme, ? aux éditions Buchet-Chastel. Et le dernier, donc, Ensemble pour mieux se nourrir, enquête sur les projets solidaires et durables pour sortir de la précarité alimentaire qu'on a abordée aujourd'hui. C'est aux éditions Actes Sud. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup Tiffany. Bon steak de tofu. Merci pour les recettes. Plein de bonnes choses pour vous. Merci d'avoir témoigné et de nous avoir éclairé de votre expérience. À très bientôt sur RTL. Et puis merci à vous tous pour votre écoute et votre participation active à ce débat. On se retrouve demain dès 14h30 en direct pour de nouvelles conversations. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse.
Flavie Flamand sur RTL.